sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie. Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Juste dites-nous quelque chose avant qu'on découvre votre portrait. La transition écologique, la transition énergétique, ça ne date pas des années 80 ou 90. Ça remonte à quoi? Presque 80 ans, c'est alors, américain?
Ça s'est surtout inventé dans le milieu des savants atomistes américains des années 50 qui pensaient l'épuisement des fossiles à très long terme. Et donc la question qui est assez étrange, c'est comment ça se fait qu'on est recyclé un futur assez particulier de gens qui se préoccupaient de l'énergie
en 2000, voilà,
et des gens qui se préoccupent de la fin du charbon en 2300. On a recyclé ce futur-là, des manières de réfléchir sur l'énergie pour réfléchir à la question du changement climatique qui n'a pas grand-chose à voir en fait.
Ça commence fort. Votre portrait réalisé par Gaël Legras.
Historien, l'anthropocène, sans transition, c'est la règle de trois de Jean-Baptiste Fressoz. En 2002, jeune historien à l'EHESS, il fait partie d'un groupe de recherche sur l'histoire des sciences et des technologies dirigé par Dominique Pestre. Dans les discours académiques, il y avait cette idée sous-jacente qu'on vivait une époque extraordinaire de découverte des questions de risque. L'un des ouvrages de référence en la matière s'intitule « La société du risque ». Il a été écrit en 1986 par le sociologue allemand Ulrich Beck. Selon Beck, la société s'était transformée très récemment sous l'influence de la question des risques.
J'étais très surpris par ce discours que je trouvais factuellement faux. Historiquement, ça ne collait pas avec ce que je trouvais dans les archives.
Jean-Baptiste Fressoz rédige alors sa thèse et publie « L'apocalypse joyeuse », essai dans lequel il montre non seulement que l'on avait conscience des risques au 18e et 19e, mais aussi que l'on avait déjà des dispositifs pour passer outre, comme le principe de pollueur-payeur instauré en 1810. L'événement anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous, sort en 2013. Avec son co-auteur, Christophe Bonneuil, il s'efforce alors de penser l'anthropocène en historien, cette nouvelle ère géologique au cours de laquelle l'humanité est devenue la principale force de changement du système Terre. Sur le même thème, il coécrit le documentaire « L'homme a mangé la Terre ».
Dans ces deux siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques, aussi brillante que destructrice.
En 2020, dans Les Révoltes du Ciel, il montre à quel point le déboisement et les cycles de l'eau, par exemple, sont des sujets politiques et scientifiques brûlants en Europe depuis 5 siècles, en particulier au milieu du 19e, après une période d'inondation.
Et on voit un grand débat dans l'espace public français sur la question du changement climatique. Est-ce que ces grandes inondations sont causées par un changement climatique anthropique, causé par l'homme? Est-ce que c'est parce qu'on a trop déforesté?
Dans Sans Transition, il remet en cause les discours rassurants sur la transition écologique. Selon lui, les sources d'énergie ne se substituent pas les unes aux autres, elles s'accumulent. Page 333, il conclut. Des solutions très complexes dans le futur empêchent de faire des choses simples maintenant.
Ben oui, Jean-Baptiste Fressoz, on pensait qu'il y avait eu plusieurs ères ou plusieurs phases. La phase du charbon, la révolution industrielle, après le pétrole, et puis ensuite une nouvelle ère qui serait les énergies renouvelables, l'éolien, etc. Mmh. En fait, vous dites pas du tout, c'est une sorte de construction, un leurre, une mystification. Tout s'accumule, on n'abandonne pas l'une pour l'autre, elles s'additionnent de manière symbiotique et démente.
Mmh. Effectivement, les historiens de l'énergie avaient eu tendance à raconter une histoire phasiste de l'histoire de l'énergie, avec un premier âge pré-industriel, le bois, l'eau, un 19e siècle, le charbon, la machine à vapeur, un 20e siècle, le pétrole. Et en fait, quand on regarde plus concrètement l'histoire de l'énergie, d'une part, tout s'accumule, ce qui est une évidence absolue dès qu'on regarde un graphique sur les dynamiques énergétiques. Et en outre, ces énergies, elles sont complètement intriquées les unes dans les autres. Ça, je crois que c'est le point vraiment important qu'il faut comprendre. Quand on pense les énergies comme des entités séparées et en concurrence, et on a tort en fait, les énergies, elles s'entraident et elles s'intriquent. Un exemple, la révolution industrielle est souvent racontée comme un basculement du bois vers le charbon. Oui. Or, pour extraire du charbon, dans les années 1900, il faut des quantités faramineuses de bois, à tel point que l'Angleterre, en 1900, consomme plus de bois rien que pour étayer les galeries des mines, pour extraire du charbon, qu'elles n'ont brûlé au XVIIIe siècle. Donc quand on dit que c'est une transition du bois énergie au charbon, en fait, on dit une erreur.
On dit une erreur.
En fait, quand on dit charbon, il faut voir qu'on dit plein d'autres choses. On dit bois, par exemple, aussi.
Mais alors, par exemple, quelqu'un pourrait vous dire, oui, mais alors, en France, il y a un désempilement. Il n'y a plus que 2 centrales à charbon en France. Donc, on est passé de quelque chose à autre chose. Alors, cette objection, vous répondez quoi?
Alors, c'est vrai que dans le mix électrique, pour la production électrique, en France, on consomme très, très peu de charbon. Mmh. Il reste un peu de charbon dans la sidérurgie française, quand même. Mais la chose vraiment importante, c'est que le mode de vie français dépend encore massivement du charbon du fait des importations. Donc là, il faut vraiment faire une différence entre les émissions nationales, l'empreinte nationale, où effectivement, il y a très, très peu de charbon. Et puis, quand on prend l'empreinte globale, c'est-à-dire on prend en compte tout le commerce extérieur, là, d'un coup, il y a beaucoup de charbon. On ne doit pas être loin d'une tonne par an, par habitant, si on prend l'empreinte totale. Mmh. Parce que dans les biens qu'on importe, bah, c'est fait dans des pays où on consomme beaucoup de charbon. Et puis en fait, dès qu'il y a de l'acier, il y a du charbon. Enfin, on est encore fortement dépendant du charbon, en vérité.
Qu'est-ce que ça veut dire, la transition énergétique? C'est l'idéologie du capital du XXIe siècle. Ça, c'est un point de vue politique ?
Alors, c'est la conclusion. L'essentiel du livre est un livre strictement empirique et historique. J'ai vraiment apprécié ça.
Et scientifique, donc.
C'était une habilitation à diriger des recherches tout à fait austères que j'ai transformées en livre. Et donc, effectivement, je pense que la transition énergétique joue un rôle clé dans la procrastination climatique. C'est-à-dire, on fait miroiter des solutions technologiques dans des secteurs où il n'y aura pas de solution technologique, que ce soit l'aviation. On sait très bien que ces histoires d'avions à hydrogène, a priori, n'ont pas grand avenir. La sidérurgie, ça va être très compliqué à décarboner. Les cimenteries, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc il y a l'électricité, en gros, où effectivement, on a des solutions qu'on voit à l'écran, là, qui peuvent jouer un rôle important. Mais l'électricité, c'est 40% du problème, c'est 40% des émissions. Donc il y a en fait tout un paquet d'émissions qui vont être très dures à contrôler. Et donc parler de transition en permanence, ça évite de mettre...
Oui, faire un ministère et s'en gargariser.
Je crois que le point clé, c'est ce qu'on fait grâce à ça. C'est un peu compliqué, mais on diminue l'intensité CO2 de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut y mettre de moins en moins de CO2 pour produire un bien, un service ou un dollar de PNB. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on fait. Mais si on dit les choses comme ça, ça laisse sur la table la question de la taille de l'économie. Et à l'inverse, si on dit transition énergétique, alors là, on peut imaginer une économie en croissance, en 2100, sans fin, parce qu'on sera entièrement déconnecté du carbone. Ce qui est, à mon avis, une illusion. Donc je crois que c'est vraiment un mot qui est très problématique.
Mais alors c'est quoi le seul moyen ? C'est la décroissance, c'est ça que vous dites ?
Il n'y a pas un seul moyen. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas y opposer décroissance et technologie, sobriété et technologie. C'est des faux débats.
Sobriété, vous y revenez beaucoup. D'ailleurs, dans votre livre, vous avez une attaque un peu virulente contre le GIEC. Vous dites, pendant 30 ans, ils ont soigneusement évité le mot de sobriété et de promouvoir la notion de sobriété.
Alors, il faut préciser, c'est dans le GIEC, il y a trois groupes.
Oui, le groupe 3.
Là, ce dont je parle, c'est le groupe 3. C'est le groupe 3, experts des solutions, dont j'écris un peu l'origine. Il faut savoir que les deux premiers présidents du groupe 3 du GIEC étaient ouvertement climato-sceptique.
Et François Gémen dit de vous, la spécialiste du climat, vous connaissez, un des auteurs du rapport du GIEC, il vous accuse de déclinisme écologique carrément, il dit que vous plombez les ambitions dans la lutte contre le changement climatique.
Je pense qu'il s'est arrêté au bandeau du livre qui posait problème sans avoir nécessairement lu le livre, sinon il aurait bien vu à quel point en fait le livre n'est pas du tout contre les renouvelables.
Alors, absolument ni décliniste.
Pas. Ni décliniste. En fait, il faut bien voir qu'on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires. On se gargarise de transition, mais en fait, quand on regarde les scénarios de prospective de l'Agence internationale de l'énergie ou l'équivalent américain, en fait, ils n'imaginent pas du tout, ils ne sont pas du tout en train de prévoir des transitions. En gros, ils envisagent une petite baisse du charbon grâce au solaire, principalement, mais le gaz et le pétrole restent stables. Donc, on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires, donc il faut se secouer. Et une fois encore, il y a plein de secteurs technologiques où il y aura du carbone en 2050. Je veux dire... Enfin, on se focalise sur la technologie, mais il y a le temps de diffusion des techniques. Et puis, il y a plein de techniques qui ne seront pas compétitives. Je ne sais pas, l'acier, qui est un gros morceau. On parle de 8-9% des émissions mondiales. Pour le décarboner, bon courage pour faire ça avec du solaire ou de l'éolien. Donc, je crois qu'au contraire, il faut avoir un discours adulte sur les technologies, faire preuve de discernement technologique. Il y a des secteurs où, effectivement, il y a des bonnes nouvelles. Mais il y a encore un paquet de secteurs où, en fait, non, il n'y a pas de solution technologique comme ça à portée de main.
Alors, on va évoquer avec vous, Jean-Baptiste Fraisse, et avec Anna, un homme, un adulte pourtant, qui est un technoptimiste. Il s'appelle Bertrand Piccard. Vous voyez où on veut en venir, n'est-ce pas, Anna ?
Bertrand Piccard, l'aviateur, explorateur suisse. Lui, c'est un petit peu l'incarnation de l'écologie de solutions. Et on se souvient, il y a 8 ans de son tour du monde avec son avion équipé de panneaux solaires Solar Impulse. Eh bien, il a un nouveau projet fou, c'est d'arriver cette fois à faire le tour du monde en 8 jours, sans escale, sans assistance, avec un avion à hydrogène baptisé Climate Impulse. Regardez, 37 mètres de long, près de 6 tonnes, 2 réacteurs à hydrogène liquide, un cockpit qui pourra accueillir jusqu'à 2 pilotes et l'avion pourra même à terme transporter 4 à 5 passagers sur des vols de courte durée. Alors l'objectif de Bertrand Piccard, il est clair, c'est remettre de l'impulsion dans l'action climatique. Il a même déclaré au Figaro, je le cite, « des solutions existent, y compris pour les industries les plus difficiles à décarboner comme l'aviation ». Et il peut d'ailleurs compter sur le soutien financier et logistique de très grands noms de l'aéronautique, Airbus, Safran ou encore le groupe Ariane. En tout cas, le décollage est prévu pour 2028. Jean-Baptiste Fraisson, on le sait, vous semblez très sévère avec l'hydrogène. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut quand même aider à la décarbonation de l'aviation ?
En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait sur le plateau des ingénieurs aéronautiques.
Plus d'ingénieurs
Boeing,
en général.
Airbus. Des gens qui vous expliquent à quel point ce genre de solution à l'hydrogène pour l'aviation, ça ne marche pas du tout. L'hydrogène, c'est 3 fois moins dense en énergie que le kérosène. Donc il faut des réservoirs déjà beaucoup plus volumineux.
Mais ça ne marche pas aujourd'hui, mais est-ce que ça pourra marcher un jour ?
Alors, il faut le conserver à moins 253 degrés. ce qui n'est pas évident, à 10 km d'altitude. Mmh. Et puis en fait, cet hydrogène, il faut le produire. Et donc il faut énormément d'électricité.
L'énergie.
Et ça, ce n'est pas une question de futur technologique. Il faudra de l'énergie, de l'électricité pour faire de l'hydrogène. Pour la France, il y a des calculs qui sont faits, il faudrait pas loin de 20 centrales nucléaires pour produire les carburants, enfin l'équivalent hydrogène du kérosène qu'on consomme. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on parle énormément là d'avions à hydrogène, mais ça sert à quoi? Ça sert à éviter de se poser des questions sur l'aviation jusqu'en 2050.
Et bien justement, attendez, une dernière question. Mmh. Vous avez débattu récemment avec Jean-Marc Jancovici, qui est assez pro-nucléaire et qui avait épaté tout le monde il y a quelques mois en disant, moi je suggère que chacun se responsabilise et par exemple qu'il y ait des quotas, que chacun n'ait plus que 4 vols aériens dans une vie. Mmh. C'est ça la sobriété, ça passerait par ce genre de choses?
Je pense qu'il a eu raison de mettre sur la table cette question de la limitation des usages. Mmh. Surtout dans ce secteur-là où, bon, alors le problème c'est que le secteur aérien c'est que 5% des émissions, donc on se focalise là-dessus, c'est pas si important que ça. Mais c'est un exemple parfait parce que c'est le truc, on sait qu'on ne sera pas le décarboné, contrairement à ce que dit M. Picard. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'en fait ce technosolutionnisme c'est une forme de nouveau climato-scepticisme. C'est exactement la même chose. Sur ce genre de secteur où, objectivement, on n'est pas du tout prêt, c'est pas du tout mature technologiquement, pousser comme ça des rêves technologiques, oui, ça a un effet en fait, de procrastination, évidemment.
Eh bien voilà, c'est Jean-Baptiste Fressos, grand historien des sciences, des techniques et de l'environnement, qui publie un livre qui va faire discuter et qui fait déjà parler sans transition au seuil. Merci d'être venu.
Merci pour votre
sur Arte et dans